Ce matin, le message est celui-ci. Vaincre nos obstacles par la foi. Et qu'est-ce qu'on peut lire dans le livre de Josué au chapitre 5? Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici, un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis? » Il répondit, « Non. » Mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel, j'arrive maintenant. Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, « Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? » Le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, « Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. » Et Josué fit ainsi. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, « Vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville, et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris, alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera chacun devant soi. » C'est un récit qui est bien connu, les murailles de la ville de Jéricho. Mais c'est une illustration ici de notre vie chrétienne, notre marche par la foi. Ce qu'on voit tantôt, ils ont fait le tour de la ville par la foi. Et Josué conduisait un peuple nombreux. 2 millions, plus ou moins 2 millions de personnes. Et chacun était appelé à mettre sa foi en Dieu en vue de prendre possession du pays promis. Frères et sœurs, vous savez comme moi que la foi, c'est un élément fondamental à toute vie chrétienne. Comme on a mentionné tantôt, c'est par la foi que les enfants d'Israël ont regardé vers le serpent et qu'ils étaient guéris. C'est par la foi qu'on regarde vers la croix et que nous sommes pardonnés, n'est-ce pas? C'est l'élément fondamental pour la vie chrétienne. La vie chrétienne commence par la foi, elle se poursuit par la foi, puis elle va se terminer dans la foi aussi. La foi en sa résurrection, Jésus est mort, mais il est ressuscité, en son ascension, et en son retour imminent également, vous croyez cela? Jésus va revenir, comme il a été dit. La foi dans la Bible. Nous croyons que la Bible est la parole de Dieu. Que les écrits que nous avons entre les mains aujourd'hui sont conformes aux écrits originaux, hébreux et grecs. On a beaucoup de preuves de cela. On peut être certain que cette version de Bible que nous avons, elle est aussi fiable que les écrits originaux. Cette parole-là est là pour nous faire connaître Dieu et nous faire découvrir notre propre destinée aussi sur cette terre. Pourquoi est-ce que je vis ici-bas? Et quelle est ma destinée éternelle? La foi dans la prière. Les prières adressées à Dieu et à Dieu seul. Vous voyez ça, vous autres? Dieu entend nos prières et les exauce en son temps et à sa manière. C'est Dieu qui le fait, frères et sœurs. La vie chrétienne se poursuit dans la foi. La Bible dit quoi? Le juste vivra par la foi. Donc, c'est une vie constante comme cela jusqu'au retour du Seigneur. Si vous posez la question ce matin, quelle est la grandeur de votre foi? Avez-vous assez de foi? Combien disent qu'ils ont assez de foi ici? Il n'y a pas beaucoup qui lèvent la main. Oh, vous êtes comme les disciples. Seigneur, augmente notre foi, n'est-ce pas? En fait, le Seigneur a reproché parfois à ses disciples de manquer de foi, et jamais reproché d'avoir trop de foi. Alors, Seigneur, et vous voyez que la foi, c'est difficile à évaluer, à mesurer, est-ce que j'ai assez de foi? Par exemple, on prie pour une chose, ça n'arrive pas, Seigneur, bon, c'est parce que je n'ai pas assez de foi, on se pose la question, qu'est-ce qui se passe, pourquoi? Ce n'est pas forcément un manque de foi, mais la foi est appelée à grandir au travers de cela. Et en fait, la Bible nous a été donnée pour stimuler la foi, pour nourrir notre foi, pour l'éclairer. Alors, c'est important de la lire quotidiennement. Si vous demandez ce matin, quel est l'article le plus précieux que vous avez dans la maison chez vous? Vos meubles? Vos électroménagers? vos équipements de son, peut-être un souvenir précieux de vos parents. Tout ça a de la valeur. Mais l'article le plus précieux, c'est la Bible. C'est la Bible. Le Seigneur dit quoi? Le ciel et la terre vont passer. Tous nos biens vont passer. Mais la parole demeure éternellement. Le livre le plus précieux qu'on a entre les mains, frères et sœurs, c'est la Bible. Et aujourd'hui, en plus, non seulement on l'a sur papier, on l'a numérique. On peut la lire en tout temps, n'importe où. Pour ceux de mon âge, vous savez qu'à l'époque de l'URSS, les Bibles étaient rares dans cette immense république. Et parfois, il y avait une Bible pour toute une église. Imaginez si on avait une seule Bible pour toute l'église ici ce matin. C'est moi qui l'ai en plus. On se la passerait. Hein? Mais c'est ce que les chrétiens faisaient. Ils se prêtaient la Bible les uns aux autres. Et quand ils l'avaient, non seulement ils la lisaient, mais ils la copiaient. Et ils copiaient des chapitres entiers, même des livres entiers, afin que lorsqu'ils passaient la Bible à un autre, au moins ça leur reste cela. Beaucoup de chrétiens ont fait ça. Les Bibles étaient rares. Et plus une chose est rare, plus elle a de la valeur, pas vrai? Plus un métal est rare, plus il prend de la valeur. Plus il y en a, plus il perd de la valeur. Parfois, on a plus qu'une Bible. Deux, trois, quatre Bibles. On l'a en format numérique. Elle est disponible. Et parfois, le risque, c'est qu'on est, à nos yeux, ça perd un peu de sa valeur. Et pourtant, ça a une grande valeur. Et j'aimerais vous encourager à ne pas vous priver de la lire chaque jour. D'y plonger vos regards, lisez au moins un chapitre, peut-être deux chapitres, si vous pouvez. De manière suivie. Peut-être au déjeuner, au dîner, à la pause café, le soir, prenez un moment pour ouvrir votre parole, la lire quotidiennement. Un frère me disait à Rimouski, « Ah, moi, pasteur, je ne suis pas liseux. » N'as-tu qu'ils ne sont pas liseux ici? OK. Alors, j'ai suggéré ceci. J'ai dit, « Va sur Internet. Maintenant, tu peux avoir la Bible lue en ligne. » Il a commencé ça. Ah, il dit, « Ça m'aide. » Il ouvrait sa Bible puis il suivait en même temps que le lecteur lisait. Donc, ça aide. Il faut trouver des trucs, des moyens pour se nourrir de la parole de Dieu. Faisons comme Jérémie. Jérémie a dit quoi? Tes paroles sont présentées à moi, je les ai dévorées. Hein? Il n'a pas vu se goûter un petit peu? Il est dévoré. Ta parole a provoqué mon allégresse, elle a fait la joie de mon cœur, que veux-tu appeler de ton nom éternel, Dieu de l'univers. Alléluia! Dévorons la Bible, frères et sœurs. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de la parole de Dieu. C'est la nourriture pour notre âme, ça. On a besoin chaque jour. D'ailleurs, Dieu a dit ceci à Josué, au chapitre 1 et au verset 8, que ce livre de la loi, et là il faisait référence à la loi de Moïse, ne s'éloigne pas de toi, médite-le jour et nuit pour agir avec fidélité, conformément à tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Josué avait entre les mains les cinq premiers livres de la Bible. Et Dieu lui dit quoi? Lis-le, médite-le jour et nuit pour réussir dans ta vie. Qui veut réussir? Tout le monde veut réussir. Alors voici le secret. Méditer, réfléchir, comment je peux mettre en pratique. Et frères et sœurs, peut-être qu'on n'aura pas beaucoup de succès aux yeux du monde, mais si on a un succès aux yeux de Dieu, c'est ce qui compte. Et Josué allait avoir du succès aux yeux de Dieu. Et cette parole-là, elle est indispensable pour chacun d'entre nous. Elle est indispensable pour apprendre à connaître Dieu. Parce qu'on peut se faire des idées sur Dieu, mais lorsqu'on lit la parole, on découvre Dieu tel qu'il est. Elle nous aide à comprendre ce qu'il attend de nous également. Quelles sont ses promesses? On a chanté ce matin ses promesses, oui. Ses commandements, les instructions pleines de sagesse. Alors, sur le chemin de la conquête, il avait déjà conquis le côté est du Jourdain. Maintenant, ils ont traversé le Jourdain miraculeusement et ils s'apprêtaient à prendre l'autre partie. Et là, il y avait un obstacle de taille qui était la ville de Jéricho avec de grandes murailles. C'était le défi pour prendre la terre promise. Un pays où coule le lait et le miel, avait dit l'Éternel. Pour nous, le pays où coule le lait et le miel, c'est en Jésus qu'on le trouve. Amen. Un pays d'abondance. Jésus dit quoi? Je vous donne la vie en abondance. Pas en petites miettes, en abondance. Merci Seigneur. Mais cette vie-là, elle n'est pas sans défi. Vous savez ça? La vie chrétienne n'est pas une vie sans défis. Il y a des défis. Il va y avoir des épreuves également. Il va y avoir des difficultés, des obstacles qui vont se présenter. Et ces épreuves-là ou ces obstacles-là ne sont pas des accidents de parcours. Mais Dieu les permet pour produire quelque chose de mieux en nous, de plus précieux, quoi? Que notre foi soit éprouvée comme l'or est éprouvé par le feu. Notre foi vaut plus cher que l'or de la reine d'Angleterre, frère et sœur. Notre foi a une grande valeur aux yeux de Dieu. Alors, il permet des épreuves, des obstacles, afin que notre foi grandisse dans cela. Et Dieu a un plan et un but pour chacun d'entre nous. Josué avait reçu la promesse suivante, au chapitre 1 encore. Tout lieu que foudra la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Personne ne pourra te résister tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Ne t'ai-je pas ordonné? Fortifie-toi et prends courage. Ne sois pas effrayé ni épouvanté, car l'Éternel ton Dieu est avec toi où que tu ailles. Amen. Cette promesse-là, elle est vraie pour chacun d'entre nous. Vous voyez cela? Amen. C'est pour nous, ça. Une victoire est assurée d'avance, comme elle est assurée pour les enfants d'Israël. Mais nous devons agir selon ses prescriptions, avancer avec courage, persévérance et obéissance. Et Josué était appelé à avancer et non pas à faire marche arrière. Oh, l'obstacle est trop grand, je pense qu'on va retourner de l'autre bord. Non, il était appelé à avancer avec le peuple d'Israël. Et vous savez quoi? Beaucoup de nos épreuves ne sont pas causées par nos manquements personnels. Parfois, oui. Mais bien des fois, elles sont l'œuvre du malin qui veut nous empêcher de progresser, d'avancer sur ce chemin qui mène à la vie. Il veut nous bloquer, nous stopper. Alors, on doit vraiment retourner nos regards vers le Seigneur dans ce temps-là. Et voici quelques étapes ici. La première étape, c'est de reconnaître l'obstacle. Josué a vu les murailles de Jéricho. On ne les a pas retrouvées, les murailles. Mais elles devaient être assez hautes. Et même, j'ai lu quelque part que c'était en fait deux murailles, côte à côte, parallèles, et sur lesquelles pouvaient marcher, déambuler des soldats. Alors, c'était quelque chose à prendre. Il n'y avait pas d'instrument de guerre, de bélier ou autre pour défoncer la muraille. Et pourtant, ils devaient la prendre, la ville. Prendre mesure de l'obstacle. Mais Josué n'était pas laissé à lui-même, et nous ne sommes pas laissés à nous-mêmes face à nos obstacles. Et je ne sais pas, frères et sœurs, quelle hauteur ou quelle largeur a la muraille qui est devant vous maintenant. Peut-être que votre défi, c'est au travail. Au travail, on a des défis parfois avec les relations avec les gens qui travaillent avec nous. Aux études, c'est pareil d'ailleurs. Parfois, c'est dans les exigences du travail. Ça peut devenir lourd. Seigneur, j'ai besoin de ton aide. Le défi peut être à la maison. Avec un enfant qui éprouve des difficultés, avec le budget, le défi peut être avec l'harmonie familiale ou la vie de couple. Parfois, dans le service de l'Église, notre disponibilité ou nos relations avec les frères et sœurs, parfois c'est un défi. Le défi peut être avec soi-même, une pauvre image de soi-même, ou encore les tentations qui nous assaillent et lesquelles on ne vient pas toujours à bout de surmonter. Le défi peut être face à la maladie, qu'elle soit d'ordre physique ou émotionnel. Mais dans tous ces défis-là, Dieu nous promet d'être avec nous. Dieu dit quoi? Levez les yeux. Lève les yeux, Josué. Et qu'est-ce qu'il a vu quand il a levé les yeux? Il a vu le chef de l'armée de l'Éternel. C'était le Seigneur qui venait devant lui. Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Et le mot Seigneur, c'est Adonai. Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Donc, il a vu le Seigneur devant lui. Celui qui a autorité suprême, l'apôtre Paul écrit ceci en Éphésiens. Cette puissance, il l'a déployée en Christ quand il l'a ressuscité et l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le monde présent, mais encore dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Le Seigneur Jésus a autorité suprême. Alléluia! Alors, ce que nous sommes en lui, nous sommes dans son autorité également. Et Josué peut avoir confiance que ce que Dieu allait lui dire, comment prendre la ville, que ça se ferait. Autorité. Et une chose qui m'a frappé aussi, c'est que lorsque Josué a vu le chef de l'armée d'Éternel, qu'est-ce qu'il dit? Il s'est prosterné et il a adoré. Il n'a plus le temps de s'incliner, de demeurer dans la présence de Dieu. Combien de temps? On ne sait pas. Mais l'adoration, sa place, le pasteur Jean-Claude en a parlé il n'y a pas si longtemps. S'incliner en signe de soumission, disposé à recevoir ses ordres. Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Et là, il a dit une chose qui peut un peu nous surprendre, parce qu'on aurait pensé qu'après m'avoir, il aurait dit, mais voici Josué, la tactique, voici la stratégie pour prendre la ville. Eh bien non, qu'est-ce qu'il lui dit? Sanctifie-toi, ôte tes sandales de tes pieds. C'est une image, bien sûr. Avec nos souliers, on met le pied, on ramasse la poussière, des choses mal propres. Et c'est une image de quoi? Que notre cœur, parfois, il y a des choses malsaines qui s'y collent aussi. Des choses mal propres qui adhèrent à notre cœur. Alors, on a besoin de se sanctifier nous aussi. C'est la première instruction qu'il lui donne. Nous autres, la première instruction, on a préféré, Seigneur, dis-moi quoi faire. Mais Dieu n'est pas pressé. Et Dieu sait comment on doit procéder. Et d'abord, il faut d'abord se sonder soi-même, s'examiner soi-même. Qu'est-ce qui s'est attaché à mon cœur récemment? Y a-t-il quelque chose, Seigneur, qui est dans ma vie maintenant qui te déplaît? Le psaume 139 dit ceci. Sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Sonde mon cœur, Seigneur. Le roi David est conscient de cela. On doit prendre conscience nous aussi, afin que Dieu vraiment puisse nous purifier. L'apôtre Paul écrit en Éphésiens chapitre 5, il s'est donné lui-même pour elle, l'Église, afin de la conduire à la sainteté après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Le prérequis à toute victoire, c'est d'abord le cœur sanctifié, le cœur purifié, libéré de toute souillure, de toute mauvaise chose qui s'attacherait à nous. Dieu veut le faire pour chacun d'entre nous, frères et sœurs, comme il voulait le faire pour Josué. Et c'est nécessaire. C'est un temps de préparation du cœur, en vue du miracle qui allait s'accomplir. Vous savez, dans notre culture occidentale, on est beaucoup axé sur l'action, la performance, l'accomplissement, pas vrai? On est beaucoup axé là-dessus. Il faut faire des choses, il faut accomplir, il faut réaliser. Alors que Dieu, lui, est centré d'abord sur l'état de notre cœur. Parce que tout part de là. Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Dit le livre des Proverbes. Donne-moi ton cœur, que tes yeux se plaisent dans mes voies. La quatrième directive qu'il donne est celle-ci. Recevoir une parole précise. Dieu dit quoi? Josué, je livre entre tes mains. Il ne dit pas je livrerai ou je livrerai peut-être, mais dit je livre pour Dieu, c'est comme un fait accompli. Maintenant, ça arrive. Je livre cette ville entre tes mains. C'est une certitude de son point de vue et la certitude de Dieu doit devenir ma certitude aussi. Prendre sa parole, la croire, s'y attacher. Alors, Dieu donne une instruction ici. Une stratégie peu conventionnelle. Il y avait des hommes armés. Il n'allait pas les battre. Mais voici comment Dieu dit de procéder. D'aller avec l'arche de l'Alliance, les sacrificateurs qui sont des trompettes, le peuple en armes, pas un mot, pas un cri, faire le tour de la ville comme ça, une première fois. Les gens de Jéricho et les soldats doivent se demander qu'est-ce qu'ils font là, à tourner autour de la ville comme ça. Ça, c'est la stratégie de Dieu. Et frères et sœurs, je crois que face à nos obstacles, on a besoin d'avoir une parole du Seigneur. Pas vrai? Tout comme on vient le dimanche pour entendre une parole de la part de Dieu. Eh bien, dans notre quotidien, on a besoin d'une parole du Seigneur. Il y a quelque temps, j'ai vu qu'une chose qui était un peu stressante, difficile. Puis j'étais un peu bouleversé avec ça. Et dans la journée, je reçois un courriel. D'une organisation chrétienne que je ne connais pas. Et dans le courriel, il y avait un message d'encouragement. Puis ça tombait pile. Merci Seigneur. Dieu est bon, n'est-ce pas? Il nous donne une parole au moment voulu. Un autre exemple. Il y a plusieurs années de ça, j'étais pasteur ici, on recevait une équipe de l'Institut public du Québec, l'équipe de jeunes, pour la fin de semaine. Et j'étais enrhumé, super enrhumé, incapable de sortir de la maison. Et là, j'étais vraiment pas content. Ils sont là, je suis même pas là. Je suis à la maison, je me bouffe à toutes les 30 secondes, ça marche pas. Fait, je me dis, bon, tant qu'à rester à la maison, je vais lire ma Bible un peu, ça va même m'aider. J'ouvre ma Bible, puis moi, je lis toujours ma Bible à la suite, un chapitre après l'autre. Alors, j'ouvre ma Bible, et je lis là où je pensais que j'étais rendu. Mais je me trompe de prophète. Et puis, je lis ça, puis là, ben, je lis Lamentations, chapitre 3. Voici ce que je veux repasser dans mon cœur. Les bontés d'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Là, j'ai réalisé que ce n'est pas dans le bon chapitre, mais je suis dans le bon chapitre en réalité. Merci Seigneur! Même quand vous êtes enrhumé, il y a une parole pour vous. Dieu a des paroles pour nous. Alors, ouvrons-la, frères et sœurs. Parole d'encouragement, directive, quoi que ce soit d'autre. Le livre des Proverbes dit quoi? Écoutez, mes fils, l'instruction d'un père et soyez attentifs pour connaître l'intelligence, car je vous transmets un bon savoir. Ne rejetez pas mon enseignement. J'étais un fils pour mon père, un fils tendre et unique aux yeux de ma mère. Il m'enseignait alors et me disait, « Que ton cœur retienne mes paroles. Obéis à mes commandements et tu vivras. Acquiers la sagesse, acquiers l'intelligence. N'oublie pas les paroles de ma bouche. Ne t'en détourne pas, ne l'abandonne pas. Et elle te gardera. Aime-la et elle te protégera. » Amen. Quelle belle promesse nous avons. Mais un fils qui écoute son père, comme un enfant de Dieu, j'écoute mon papa céleste. Et vous savez quoi? Dieu, il parle pour se faire comprendre. Dieu s'adapte à chacun d'entre nous. Il va parler à quelqu'un qui est universitaire avec un langage universitaire. Il va parler à un illettré, quelqu'un qui a un langage d'illettré. Dieu se fait comprendre. C'est pas tout embrouillé. Il nous parle de manière claire. Par exemple, il a dit à Philippe, approche-toi de ce char. Le Saint-Esprit lui dit ça. Est-ce que Philippe comprenait ce que ça voulait dire? Oui, il a compris ce que ça voulait dire. Approche-toi du char, là, du trésorier de la reine d'Éthiopie qui passe. Approche-toi. Ou encore, il dit au jeune homme riche, « Va, vends ce que tu as, donne-le au pauvre, puis viens et suis-moi. » Ça se comprend-tu, ça? Oui, ça se comprend. Il va très bien comprendre ça. Ou encore, il dit aux apôtres dans la barque, « Jetez le filet. » C'est clair. Le Seigneur parle d'une manière claire, d'une manière pour se faire entendre et comprendre, afin qu'on soit dirigé, qu'on ait une direction sûre de sa part. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et quand l'apôtre Paul dit la parole de Dieu, le mot parole ici, c'est le mot rhéma, pour ceux qui s'intéressent au grec, qui veut dire une parole précise, pour une circonstance particulière. Alors que la parole en général, c'est le mot logos. Mais là, c'est une parole précise, et Dieu a des paroles précises pour nos vies, pour nos circonstances. Parfois, ça peut tarder un petit peu. Il semble qu'on n'entend rien. Alors, parfois, si on n'entend rien, c'est que continue comme ça. Et Dieu va te dire, par la suite, quoi d'autre? Mais soyons à son écoute. Faisons comme Samuel. Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. Et Dieu allait parler à qui? À un jeune enfant. Et il s'est fait comprendre de Samuel. Il peut se faire comprendre à un jeune comme à un aîné. Dieu, pas de différence pour lui. On est rejoignable, frères et sœurs, si on sait écouter. La cinquième étape est intéressante. On va le voir à l'écran. Josué, fils de Nun, appelle les prêtres et leur dit, portez l'arche de l'Alliance et que sept trompettes portent sept trompettes. Sept prêtres, dix trompettes. Les trompettes, non, on inverse ça. Sept prêtres portent les sept trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel, puis dit au peuple, marchez, faites le tour de la ville et que les hommes équipés passent devant l'arche de l'Éternel. Lorsque Josué eut parlé au peuple, les sept prêtres qui portaient les sept trompettes retentissantes devant l'Éternel se mirent en marche et sonnèrent de la trompette. L'arche de l'Alliance de l'Éternel allait à leur suite. Les hommes équipés marchaient devant les prêtres qui sonnaient de la trompette et l'arrière-garde suivait l'arche. Pendant la marche, on sonnait de la trompette. Josué avait donné cet ordre au peuple. Vous ne crierez pas, vous ne ferez pas entendre votre voix, ne sortira pas un mot de votre bouche jusqu'au jour où je vous dirai, poussez des cris, alors vous pousserez des cris. L'ange de l'Éternel fit le tour de la ville, et il fit une fois le tour, puis on rentra dans le camp, et on y passa la nuit. Voilà la stratégie qui se met en branle. L'arche, ça représente la présence de Dieu. C'est vraiment là, dans le lieu très saint du tabernacle, que l'arche était là. Alors, c'est la présence de Dieu. La présence de Dieu allait avec eux. Le Seigneur dit quoi? Je ne vous délaisserai pas, je ne vous abandonnerai pas, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Sa présence nous accompagne, alléluia. Mieux que ça encore, il dit quoi? Si on garde sa parole, il fait sa demeure en nous. Alors, si nous gardons sa parole, qui veut dire, oui, que je cherche à la connaître, à la comprendre, à la mettre en pratique, il demeure en moi, alléluia. Cette trompette qui veut dire quoi? Louer l'Éternel, alléluia. Comment on fait quand on se rencontre? On loue le Seigneur, on élève son nom. Et en silence. Pourquoi en silence? Parce qu'il devait faire le tour de la ville une journée. C'est rien passé. Deuxième journée, il fait le tour de la ville. On ne sait pas comment c'était long, mais il y avait une certaine grandeur. Rien. Troisième journée, encore rien. Quatrième, cinquième, sixième, toujours rien. Il aurait été facile de commencer à exprimer des doutes. Josué, as-tu bien compris ce que le Seigneur a demandé? Il s'est peut-être trompé. Qu'est-ce qu'on s'entendait de faire là, nous autres? On fait le tour de la ville, regarde, là, qu'est-ce qu'on a de l'air? Alors, pour empêcher toute ma parole d'incrédulité ou de doute ou de murmure, Dieu dit quoi? Silence. Et il devait faire en silence. Et le septième jour, un tour de la ville, deux tours de la ville, encore en silence, pour conserver la même certitude. Et ça nous parle de quoi aussi, ce qu'on vient de lire? De marcher dans l'unité. Pas seulement l'unité physique. On peut être assis dans une même salle ici, mais une unité de cœur. Être un les uns avec les autres, se supporter mutuellement, s'encourager, s'exhorter, prier les uns pour les autres, s'apprécier, se pardonner, etc. L'unité de cœur les uns avec les autres. Ils devaient marcher ainsi. Paul écrit en Éphésiens chapitre 4. Je vous encourage donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à vous conduire d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu. En toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour. Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps, un seul esprit, de même que vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Conservez l'unité de cœur. Et ils ont continué comme cela. Et la sixième étape est celle-ci. Ils ont continué jusqu'au septième jour. Et le septième jour, ils ont fait sept fois le tour de la ville. Qu'est-ce qui serait arrivé si après 12 tours et demi, ils avaient dit, garde, ça ne sert à rien, on perd notre temps. C'est le 13e tour qu'on fait, là. Il n'y a pas un grain de poussière qui a tombé. Il n'y a pas la même petite craque dans la muraille. Qu'est-ce qu'on tente de faire là? Frères et sœurs, la foi, c'est bien souvent cela. On ne voit rien avant que ça arrive. Il n'y a même pas un moindre signe. Vous priez, n'est-ce pas, pour vos bien-aimés? Vous ne voyez pas toujours les signes. Hein? Des fois, c'est comme, on dirait qu'il n'y a pas de changement, mais des fois, ça semble empirer. Pourtant, la foi, c'est de persévérer jusqu'à l'accomplissement de la promesse. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille, et d'autres promesses semblables. Alors, nous prions, nous attendons, nous persévérons face au défi qui est devant nous. Mais si on s'arrête, alors que Dieu n'a pas dit encore, c'est le moment de pousser des cris. S'il avait crié au deuxième tour, hey, on crie maintenant, ça ne sera pas écouté non plus. Il y avait un temps pour le Seigneur. Et Dieu a un temps pour nos vies. Il y a un temps pour l'accomplissement d'une promesse. Il y a un temps pour un appel. Il y a un temps pour une chose à accomplir. Et il faut se mettre à son écoute. Et Dieu va nous conduire, comme il a conduit les enfants d'Israël. Et le septième jour, sept tours, ça parle de la perfection du plan de Dieu. Le chiffre 7, c'est la perfection de Dieu. La perfection du plan de Dieu. Ça nous parle de quoi? De la persévérance aussi. Si après six jours, ça veut dire, on commence à être fatigué, à marcher nous autres même. On prend un jour de repos, puis le septième jour, ah ouais, puis sept fois en plus. La persévérance dans la foi. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Alors, ça nous prend de la persévérance. Et Dieu sait qu'il y a des obstacles à la persévérance. Le diable vient nous souffler à l'oreille qu'on perd notre temps, que c'est inutile de toute façon. Regarde comment les autres vont, puis il n'y a pas besoin de Dieu, puis ça va bien pour leur vie. Asaph est tombé dans ce piège-là, au psaume 73. La persévérance. Quelqu'un a écrit, « La foi ferme les yeux sur tout ce qu'on peut être vu et ouvre les oreilles pour entendre tout ce que Dieu a dit. » Ferme les yeux sur ce qui peut être vu et ouvre les oreilles pour entendre ce que Dieu a dit. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Et la victoire qui allait triompher, c'était la foi des enfants d'Israël. J'ai invité les musiciens à venir maintenant. Un prédicateur a écrit, « Lorsque nous sommes dans le domaine de l'impossible, nous sommes au meilleur endroit pour voir les possibilités de Dieu. » Et s'il y avait une chose qui était impossible, c'était bien de voir ces murailles-là s'écrouler. Et pourtant, ils étaient au meilleur endroit parce qu'au moment voulu, à l'heure voulue, à la fin du septième tour, le septième jour, ils ont crié et la muraille s'est écroulée. Miracle, frères et sœurs. Peut-être avez-vous besoin d'un miracle dans votre vie personnelle, dans votre situation actuelle, dans votre famille, dans votre travail, ou quoi que ce soit. Un miracle. Je ne sais pas quel est votre Jéricho, mais il n'y a pas de muraille trop haute ni trop large pour Dieu. Il nous faut être attentifs à sa voix et agir selon sa parole. Alors, frères et sœurs, oui, Dieu va faire l'œuvre en nous. Il nous appelle à nous sanctifier, nous sonder, nous examiner. Puis il nous donne une stratégie à suivre, des pas à accomplir. Et lorsque nous le faisons, Dieu est avec nous dans cela. Et un jour, tôt ou tard, on voit l'accomplissement de sa promesse. N'est-ce pas merveilleux? Dieu veut le faire pour nos vies, frères et sœurs. Est-ce qu'on peut fermer les yeux, s'il vous plaît? Seigneur, si nous sommes réunis ici ce matin, c'est parce qu'on est venu pour entendre ta parole. On est venu pour te rencontrer. On est venu, Seigneur, pour recevoir une parole de ta part, afin d'être éclairé, d'être encouragé, fortifié. Seigneur, afin de mieux te connaître aussi. Quelles sont tes voies envers chacun d'entre nous? Si dans votre cœur aujourd'hui, vous constatez qu'il y a une muraille devant vous, il y a un Jéricho qui se dresse devant vous, je vais vous inviter là où vous êtes à vous lever à votre place, afin qu'on puisse prier ensemble et que le Seigneur vous encourage et vous fortifie face à ce Jéricho, quel qu'il soit, de nature personnelle, familiale, dans votre travail, votre ministère peut-être. Pendant qu'on va chanter ce matin, je vous invite à vous lever là où vous êtes et à dire, Seigneur, moi, je fais face à un Jéricho, mais je veux te faire confiance pleinement. Seigneur, je ne veux pas regarder à la hauteur de la muraille, mais je veux lever mes yeux vers toi. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Seigneur, c'est par la foi qu'on t'est agréable. Et ce matin, Seigneur, je veux mettre ma confiance entière en toi et en ta parole. S'il y en a d'autres ce matin qui veulent se lever là où vous êtes, afin qu'on puisse prier ensemble. Et demandez au Seigneur vraiment qu'il vous encourage, vous fortifie, vous donne un élan nouveau peut-être, face à ce Jéricho. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur Jésus. Alléluia. Dieu Tout-Puissant, oui Seigneur, ô Dieu, alléluia, alléluia. J'aimerais que des frères et sœurs aillent se joindre à ceux et celles qui sont debout. Si vous êtes proche d'un frère ou d'une sœur, allez vous joindre à eux, à lui ou à elle. Allez prier. Ceux qui sont assis maintenant, allez s'il vous plaît, prier avec quelqu'un qui est debout là, près de vous. Gênez-vous pas. On est là pour s'épauler, pour être dans l'unité, marcher ensemble. Allez trouver quelqu'un, puis joignez-vous à lui ou à elle. Afin qu'on puisse prier ensemble et s'attendre à Dieu pour une délivrance, une victoire, une conversion, une guérison même. Oui, Seigneur. Seigneur, nos yeux sont sur toi ce matin, ô Dieu. Que nous savons que tu es le Dieu de l'impossible. Tu as déclaré, Seigneur, que tout est possible à celui qui croit. Alors, Seigneur, cet obstacle qui se dresse devant nous, il peut nous paraître insurmontable. Mais dans la foi que nous avançons et qu'on s'attend à toi pour le miracle de délivrance, le miracle de guérison, le miracle de réconciliation. Seigneur, pour la force que tu nous donnes chaque jour dans nos occupations, notre travail, nos études. Oui, Seigneur, nos regards sont vers toi, ô Dieu Tout-Puissant. Tu vois nos cœurs, Seigneur, ce matin. Ô notre Dieu. Oui, Seigneur, tu es le chef de la main de l'Éternel. On veut s'incliner devant toi, ô mon Dieu, et savoir que tu es celui qui nous guide, celui qui conduit nos pas jour après jour. On veut te louer et te bénir d'avance, Seigneur, comme les trompettes retentissantes, sachant comment tu peux faire même plus que ce à quoi on s'attend, ô Dieu. Loué soit ton nom, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Loué soit ton nom, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Vas-y. Amen. Amen. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur.